follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat. I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien dans Bandgeek Mafia. C'est votre émission Infoculture tous les 15 jours.
Oui, les semaines paires.
Et les semaines paires, salut Seb,
salut
Romain.
Salut,
ça va?
Ça va, vous allez bien les gars?
Alors ce soir, ouais, c'est une première, c'est Pablo qui fait la technique.
Ah ouais, ah, et c'est pas gagné les gars.
On a hâte.
Donc, on va essayer.
Ben, on va essayer, on fait un bisou à Seb.
Ouais. Et ça, on embrasse.
Et toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Bonsoir. Alors, de quoi on parle ce soir, Pablo?
Alors, on va parler de cinéma.
Ouais.
On va parler de cinéma, je crois qu'on est à plusieurs films.
Moi, je vais parler de Blonde, le film sur Marilyn Monroe.
Génial. Moi, je vais parler de la... 1, 2, 3... Oui, Mon pays imaginaire, un documentaire. Et puis, on va parler aussi d'un deuxième film que j'ai oublié, mais c'est L'origine du mal. Et puis, alors, ensuite, on va parler de...
Série télé.
De série télé.
Absolument. Alors, pas que, si vous voulez bien, si vous m'autorisez. Alors,
il y aura petite surprise.
Oui, il y aura évidemment, une série que peut-être certains ont déjà vue, puisque c'est un peu d'époque, c'est Halloween et ainsi de suite. On parlera du Cabinet des Curiosités qui est en ce moment sur Netflix. Guillermo del Toro.
Absolument. Super.
Et puis peut-être aussi un peu d'écologie, si vous voulez bien, bien sûr.
Oui, si on a le temps.
C'est ça.
Bon, moi, j'ai vu Le Monde de demain. Sur Arte, c'est le film qui raconte les débuts du Suprême NTM, qui parle du rap des années 80, voilà, comment il arrive en France. Et c'est plutôt pas mal. Voilà.
Alors, du coup, on va On va peut-être partir sur une petite musique.
Exactement.
Eh ben, qu'est-ce que tu voudrais qu'on se passe là? Tu
ah ben c'est toi Pablo qui décide, c'est toi qui es aux manettes. Hein.
C'est
on a parlé de musique.
Ça te rend confiance.
On a parlé de musique ensemble. Alors moi j'avais proposé le dernier Iggy Pop que je trouve vraiment sympa parce que c'est bien rock. Donc ouais. On retourne, c'est un retour aux sources on va dire ça pour Iggy Pop. J'avais proposé aussi Le Monde de Demain de NTM.
Ouais,
et puis toi
bien.
Romain.
Moi, c'est un titre qui est pas du tout rock pour une fois, hein, ça change un peu. Mais c'est un truc qui m'entête en ce moment, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le passer à l'émission. C'est l'occasion aussi de passer quelque chose d'un peu différent, tout simplement. C'est relativement récent, me semble-t-il. Et sauf erreur de ma part, ça s'appelle Low Blow et le nom du groupe c'est Honeymoon. À mon avis, il y a vraiment un jeu de mots sur honeymoon.
Ah, c'est cool.
Avec Iggy Pop, ça vous
dit? Allez, volontiers.
Venir aux sources. Vous êtes bien dans Bandit Mafia sur Radio G 101.5.
C'était Iggy Pop avec Frenzy dans Band Geek Mafia. C'était un morceau pour Florence, bien sûr.
On la salue en tout cas. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, tu l'as dit à juste titre, c'était vraiment un sacré retour aux sources. Ça fait plaisir. Cette énergie-là fait du bien, tout simplement.
Creature Shock Radio FM. Donc, on va parler de cinéma.
Alors Pablo, allez, vas-y, commence.
Alors,
Superbe documentaire.
Alors, on va commencer.
Alors, il faut que tu parles dans le micro.
Ouais. Alors, je vais commencer par le documentaire, allez. Donc, un superbe documentaire militant. Je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle « Mon pays imaginaire, mi país imaginario » de Patricio Guzmán, 2022, qui vient de sortir actuellement à l'affiche. Alors c'est un documentaire qui est à la fois émouvant, je dirais, sur le changement démocratique à l'œuvre depuis 3 ans au Chili. Je vous lis le synopsis. Allez, en 2019, L'augmentation des prix du métro à Santiago du Chili entraîne des protestations d'une ampleur inattendue. 1,5 million de personnes, 1,5 million sur 19 millions, manifestent dans les rues pour la démocratie, une meilleure éducation, un système de santé plus équitable et une nouvelle constitution, soit pour une vie digne. Les revendications sont aussi variées que les manifestants. Les femmes en particulier donnent de la voix et chantent fort. Avec succès. La constitution héritée de la dictature militaire est démantelée et les femmes deviennent majoritaires au gouvernement. Le cinéaste documentariste chilien Patricio Guzmán a déjà abordé les conséquences sociopolitiques de la dictature dans ses films précédents. La plupart de ses films ont déjà été récompensés et a longtemps attendu le tournant de la révolte de son pays. Avec Mi País Imaginario, il livre un documentaire aux prises avec le présent esthétique et poétique, libérateur et bouleversant. Alors, ce film est un hommage à la révolte populaire chilienne, voire au processus d'une révolution démocratique en train de se faire actuellement. Car depuis la révolte de 2019, appelée El Estallido, explosion ou flambée, la rue a imposé à l'ancien président d'extrême droite un référendum pour élire une assemblée constituante et réformer la constitution héritée de la dictature. Gabriel Boric, un jeune président de la gauche radicale, a été élu et la commission a proposé un texte de constitution qui a certes été rejeté, mais qui devrait être repris. Un processus démocratique est en cours. C'est aussi un hommage à la jeunesse du pays qui s'est mobilisée dans les rues, parfois de façon pacifique, parfois de façon violente, qui a payé cher le prix de sa révolte. On parle de 400 blessés aux yeux par des tirs de LBD, sans compter les autres blessures et les viols sur femmes. Cette jeunesse qui est née après la dictature, qui n'a pas connu la répression et la terreur des disparitions, qui n'a pas peur et qui réclame la dignité. Ce film est enfin un hommage aux femmes qui ont relevé la tête et clamé haut et fort leur droit au respect et à l'égalité face à la société traditionnelle, catholique, très patriarcale. Ces femmes qui ont dénoncé la culture du viol dans la chorégraphie « El violador eres tú », chorégraphie devenue virale à travers les réseaux sociaux et parfois dans le monde entier. D'ailleurs, le documentariste n'interviewe que des femmes et nous propose de très beaux portraits d'humanité. Bref, mon pays imaginaire, Mi País Imaginario de Patricio Guzmán, actuellement à l'affiche. Voilà, je vous le conseille très fortement. Et je crois que Romain, toi, t'étais particulièrement intéressé. Tu me l'avais conseillé.
Bah oui, effectivement. Déjà, j'adore l'histoire du pays, tu le sais, hein, bien sûr. Et puis surtout, ça fait suite à des manifestations qui ont eu lieu déjà en 2011 à l'époque, où justement, c'est ça qui était hyper intéressant au Chili. Alors évidemment, c'est hérité de tout ce qui suit, hein, dictature et constitution, et ainsi de suite. Enfin, cette histoire de référendum, c'est quand même quelque chose qui est fortement ancré dans l'histoire du pays, quand même. Mais aussi, voilà, c'était hyper intéressant de voir comment finalement des jeunes, de manière hyper créative, pacifiste, hein, au départ, c'est vraiment, il y avait beaucoup de manifestations qui étaient faites. Voilà, dans les rues de manière hyper pacifiste et surtout très créative. Mmh. En 2011, justement parce qu'ils n'en pouvaient plus de ne plus pouvoir, il fallait qu'ils s'endettent pour avoir une chance de faire des études supérieures. Et voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Les gens se sont rendus compte finalement que les choses, enfin, pouvaient finalement encore être modifiables, hein, que il n'y avait pas de déterminisme dans le pays, grâce à cette force de ces jeunes-là, et ça a inspiré pas mal de contestations, de mouvements sociaux. Vraiment, tout ça par le biais des jeunes et de manière pacifiste. J'avais trouvé ça extraordinaire. Ça avait vraiment changé le pays, un pays qui en plus était déchiré entre quand même deux camps qui sont un peu opposés pendant longtemps et qui ont été un peu forcés de se réconcilier, une réconciliation un petit peu compliquée. Enfin, c'est toute une histoire qui est hyper intéressante, et je trouve que le fil conducteur des jeunes au milieu de tout ça a été vraiment quelque chose de voilà. On en arrive à ce que tu racontais aujourd'hui dans ce film, et je trouve que c'est vraiment passionnant par rapport à tout ça, tout simplement.
Ouais, absolument, absolument. Bon, bah écoute.
Il manque plus qu'à le voir maintenant, parce que maintenant l'objet cinématographique, est-ce qu'il est agréable à voir en plus de l'histoire, bien sûr.
Alors, il est très esthétique. C'est vrai que Patricio Guzmán, depuis quelques années, fait des documentaires très assez esthétisants, très poétiques. Mais voilà, il garde ce côté militant, et là, on sent qu'il est à la fois très présent dans son esthétique et en même temps, il donne vraiment la parole à ces jeunes dont tu parles, à ces femmes, à toute cette jeunesse qui essaye de trouver une autre voie, notamment après un ultralibéralisme violent. Donc voilà, bah, on vous invite tous à aller voir ce film.
Clairement.
Écoute, on va passer la parole à Seb, parce Salut. Que je crois que tu as un autre film à nous proposer.
Alors oui, moi j'ai un film, ce n'est pas un documentaire, mais ça pourrait l'être, mais c'est Blonde de Andrew Dominik. C'est un film qui est sorti fin septembre sur Netflix. Ça dure 2h46, c'est un peu long, on est d'accord. C'est à la fois un drame et un biopic, donc c'est la vie de Marilyn Monroe. C'est adapté d'un best-seller, hein, d'un livre de Joyce Carol Oates, qui s'appelait donc Blonde, comme le film, et qui est une relecture, on va dire, audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus atemporelles, hein, tout le monde la connaît. Alors ça parle de son enfance tumultueuse jusqu'à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour complexes. Hein. Donc on va de Norma Jean à Marilyn. Et donc Blonde, ça brouille un peu la frontière entre réalité et fiction. Ça c'est assez intéressant parce que c'est un biopic et en même temps il y a un côté assez onirique, je dirais. Et ça, le film va explorer l'écart de plus en plus important entre la personnalité publique de Marilyn, l'actrice, et la personne qu'elle était dans l'intimité en fait. Et il y a un écart énorme entre les deux. Donc ce film, esthétiquement déjà, il est quand même très réussi. Donc c'est un très beau noir et blanc. Il y a vraiment des images très très belles. Moi, ça m'a plusieurs fois fait penser à Kubrick ou à David Lynch, en fait, au niveau esthétique, si vous voulez.
D'accord.
Après, l'actrice qui joue Marilyn, elle est incroyable. Elle s'appelle Ana de Armas. Voilà. C'est elle qui joue Marilyn Monroe. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs très connus, à part Bobby Cannavale, que vous avez vu dans des films de mafieux, et puis Adrien Brody, aussi, que vous connaissez. Mais les critiques sont plutôt bonnes. Après, c'est comment dire, on aime ou on n'aime pas. Alors, je vais vous donner quelques critiques. C'est un film, si vous voulez, sur la destruction d'un mythe. Voilà. C'est
ah oui.
c'est clairement ça. C'est-à-dire que Blonde, c'est pas le biopic classique attendu, hein, qui retrace la vie d'une icône de façon traditionnelle. Hein. Là, c'est un peu un piège cinématographique où le spectateur est un peu le petit chaperon rouge, vous voyez, qui se balade et qui tombe sur le loup, quoi. Mais
ok.
Ben, en fait, je dirais même que Marilyn Monroe, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est le petit chaperon rouge qui tombe sur le loup. Et nous, on est un peu dans la même situation qu'elle. Donc c'est une œuvre très artistique, c'est assez virtuose. Et je pense qu'on aime ou on déteste. Si vous aimez le côté kubrickien ou lynchien de Mulholland Drive, par exemple, ça va vous plaire. Par contre, si vous voulez un truc classique, c'est sûr que ça va pas plaire. Il y a des gens aussi qui critiquent beaucoup le film parce que il est très long et il est un peu dépressif.
Ah, d'accord.
Ben oui, parce que Marilyn Monroe, en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'elle, elle était dépressive. Enfin, elle vivait très mal son succès et puis surtout sa beauté et le regard des hommes et comment les hommes l'utilisent, en fait. Enfin, voilà. Donc, ça peut aussi déstabiliser. Par contre, l'actrice, elle est stupéfiante. Elle est vraiment, enfin, avec le maquillage, donc elle ressemble beaucoup à Marilyn Monroe, mais même malgré, au-delà de ça, elle est vraiment, c'est pas facile, hein, comme rôle. voilà. Donc, le film a été tourné en 2019. Donc voilà, il était reporté à cause du Covid, bien sûr. Netflix ne voulait pas le sortir parce qu'il y a quand même quelques scènes choquantes, notamment un viol. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et puis le film est un peu sulfureux, quoi. Ça montre pas le côté glamour d'Hollywood, mais plutôt la face sombre d'Hollywood. Je sais pas si vous connaissez ce bouquin aussi qui s'appelle Hollywood Babylon, qui raconte justement tous les faits divers des années 50-60 dans Hollywood, quoi. Enfin voilà, donc. C'est un film qui est au départ aux États-Unis interdit aux moins de 17 ans. Bon, là en France, je ne pense pas. Je vous le conseille si vous aimez Marilyn Monroe. Je vous le conseille si vous avez envie de découvrir le côté sombre du personnage. Voilà, c'est sur Netflix. Blonde.
Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ce côté sombre, on en entend souvent parler. On sait ce que tu rappelais, hein, son côté dépressif, on en a parlé. Et puis ce côté, enfin, il a été quand même très utilisé. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est intéressant de ce contraste avec l'icône très lumineuse et solaire de Marilyn et tout d'un coup, bah, ça, cet aspect sombre. Moi, juste une chose, c'est vrai que Ana de Armas, elle avait crevé l'écran lors du dernier James Bond, en fait. Ah oui. Elle joue une petite scène de 10 minutes où elle donne la réplique à James Bond dans
Akiba. Mourir peut attendre.
Mourir peut attendre. Et vraiment, elle crève l'écran.
Elle jouait dans Blade Runner 2049 aussi.
Exact. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup, Seb. Hein.
Ah bah, de rien, je vous le conseille. Moi, c'est un film un peu onirique, comme je disais, un peu virtuose. Un peu long, mais pas inintéressant. Moi, j'ai apprécié.
Voilà. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle ressemble.
Elle est très brune.
Oui, elle ressemble pas du tout à Marilyn Monroe au départ.
Au départ, non.
Mais pourquoi pas. C'est vrai qu'on a entendu des choses sur Marilyn Monroe, beaucoup de choses qui font sa légende, mais notamment le fait que elle avait eu aussi une histoire. Alors c'est pas l'instant gossip, encore une fois.
Avec John Fitzgerald Kennedy.
Oui, mais Montand aussi.
Oui, bien sûr. Et elle avait... Mais dans le film, on voit toutes ces aventures.
Et elle avait très 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 mal vécu cette histoire. Enfin, ce trio amoureux entre Signoret, Montand et elle, justement, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué.
Et dans le film, on voit beaucoup ces relations avec les hommes qui sont fiers d'avoir Marilyn Monroe à leurs bras, etc. Enfin, mais il y a beaucoup d'écrivains, de sportifs, enfin, tout le monde lui tourne autour, et puis les producteurs, enfin voilà. Donc, oui. Et donc, petit à petit, il y a un écart qui se creuse entre sa vraie personnalité et son personnage public, en fait.
D'accord.
Il y a un peu une faille, quoi. Ouais, et là, c'est la faille du personnage, c'est la faille de Marilyn.
Ouais, et c'est intéressant de proposer un film comme ça, je trouve. Qui sort un peu des
clichés. Ça change du glamour.
Ouais, absolument.
Une petite musique, Pablo ?
Allez. On se lance.
Muy bien.
Toi
de jouer. c'est toi qui es aux manettes.
Ce qui te fait plaisir. Nous, on a confiance dans tous les cas. On te suit les yeux fermés et les oreilles bien ouvertes.
On peut... écouter plusieurs propositions.
Ouais, on avait parlé tout à l'heure de pas mal de petites choses. Là, je te dis, si jamais vous choisissez ce que je vous ai proposé, ça va changer de ce que je propose habituellement.
On va le passer après.
D'accord.
The Strokes.
Ça ne changera pas, mais j'adore.
Allez, un petit rock, nickel. Ça s'appelle Reptilia.
Oui.
Vous êtes bien dans mon Banging Mafia sur Radio G.
c'était The Strokes.
The Strokes, Reptilia.
Ça fait vraiment du bien.
Reptilia. C'est un morceau récent. Je suis pas un grand spécialiste.
Non, il date.
Il date.
Ouais, il date pas mal.
Pour moi, les Strokes, c'est le premier album.
Ouais, non, mais c'est ça. Il y a eu pas mal de trucs après, notamment en fait. Creature
Shock Radio FM. Notamment.
Alors, excusez-moi, oui, notamment, tu disais.
Un groupe qui s'appelle The Voids, en fait, parce que Julian Casablancas, en plus des Strokes, il a fait pas mal de collaborations avec d'autres groupes. Et là, en ce moment.
Notamment les Daft Punk.
Et peut-être. Oui, tout à fait. Il a fait une collab, mais sur un titre. Mais là, je parle vraiment, tu sais, d'une asso sur un groupe complet. The Voids, quoi, en l'occurrence. J'avais déjà passé un titre que je reconseille, d'ailleurs, si vous aimez bien. Ça s'appelle Where No Eagles Fly, qui est un excellent titre rock vraiment qui est très très puissant et il fait partie du groupe pour en tout cas cet album là. Je sais pas si ça va perdurer, mais effectivement ça c'était un album. Alors je sais plus, je crois que l'album c'est Room on Fire, cet album là, si je dis pas
oui,
de bêtises.
C'est ça, exactement.
Et il date d'il y a 15 ans,
c'est
facile,
leur
quoi.
Deuxième album, je crois.
Ça remonte. Absolument. Mais c'est un titre il est mythique, quoi.
Ouais,
mythique.
Excellent. Alors on termine petite chronique cinéma comme j'avais annoncé, et puis après on passe aux séries.
Ouais, c'est comme tu veux. Pas
allez,
problème.
C'est parti. Donc moi je vais vous parler d'un thriller psychologique et familial où la fin justifie les moyens. C'est-à-dire L'origine du mal de Sébastien Marnier.
Il y a un joli prénom déjà.
Oui, tu vois. Une belle idée de scénario, mais plein de maladresse. Voilà, je vous parle du synopsis. Dans une luxueuse villa au bord de la mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille. Un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse et agressive, une ado rebelle, ainsi qu'une inquiétante servante. Quelqu'un ment. Entre suspicion et mensonge, le mystère s'installe et le mal se répand. Le réalisateur peint une société cruelle et égoïste. Il nous installe dans une situation malaisante au cœur du mensonge. L'intrusion de cette jeune femme, interprétée ici par Laure Calami, déjà vue dans la série 10%, je ne sais pas si vous
10%,
rappelez.
Ouais.
10%, oui. Dans une famille bourgeoise sur l'île de Porquerolles, façon huis clos à la Chabrolle, c'est la bâtarde qui déboule dans le cadre hypocrite et bien réglé de la famille. L'idée scénaristique est fort pertinente, les soupçons sortent de l'ombre et s'installent de plus en plus dans l'espace mental du spectateur. Le suspense monte en intensité avec la tension de plus en plus palpable. Puis, tout retombe et se banalise. C'est comme si le film s'auto-spoilait, s'auto-sabotait en révélant trop vite ses ficelles. Je cite l'écran large. La solaire, Laure Calami, signe peut-être son rôle au cinéma le plus sombre. L'élégante Dominique Blanc, bien sûr, n'a jamais été aussi extravagante et Suzanne Clément dévoile un jeu d'une étonnante brutalité, peu exploité jusque-là. Sébastien Marnier pervertit l'image de ses actrices, permettant aux spectateurs de les redécouvrir plus extraordinaires que jamais. Donc le casting est vraiment excellent et pourtant je trouve que les acteurs sont mal dirigés ou pas assez poussés dans leur jeu dramatique. Bref, là aussi une petite déception est au rendez-vous. Mais voilà, c'est si pas
du grand Marnier.
Non. Je vous bien joué. Non, yo.
Alors moi tu vois, ce Fablablo, ce film, moi au départ, j'étais assez attiré parce que ça me faisait penser un peu à Couteau tiré. Je sais pas si tu vois ce film qui est un peu film un peu Agatha Christie,
voilà,
avec Ana de Armas d'ailleurs. Ouais. Et en fait, vu ce que tu racontes, pas du tout. C'est pas aussi bien, quoi.
Non. C'est vrai qu'on se croirait vraiment dans un scénario digne de, vraiment de Chabrol. Ouais. On sent que Chabrol est là, Hitchcock. Et pourtant, moi j'ai l'impression que le soufflet retombe un peu. En fait, c'est voilà, je peux pas révéler certaines choses parce qu'il y a des rebondissements qui sont vraiment très fins ou qu'on sent monter doucement, mais le suspense n'est pas maintenu. Et c'est pour ça que je parle comme d'un auto-spoil ou d'un... Voilà, et c'est un petit peu
flop.
Dommage. Voilà. Mais on passe quand même au bon moment, et c'est particulièrement léché. À toi, Seb.
Oui, Pablo, la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, tu nous as parlé d'un film qui se passe sur un bateau, un film lutte des classes un peu...
C'était ça, Sans filtre.
Sans filtre, voilà,
la
merci Pablo.
La Palme d'Or à Cannes.
Eh bien, écoute, l'actrice, la jeune actrice vient de mourir.
Mais oui, je viens d'apprendre ça. Exact. C'est
Elle avait une maladie ou je sais pas quoi, et en fait, elle a 32 ans. Quelque chose comme
elle
ça.
Est décédée brutalement à New York d'une maladie, à 32 ans. C'était très étrange parce que cette actrice, on la voit, donc elle joue le rôle principal, la mannequin dans Sans Filtre. Et effectivement,
Bon, on lui dédie cette émission.
Ouais. Tout à fait.
Tout à fait.
Pablo, la suite, petite musique, série télé, de quoi on parle?
Alors, on va parler de série.
Ouais, un petit jingle.
Allez.
allez, pourquoi pas.
Allez, c'est parti. Alors, en haut à gauche, voilà, c'est choisi au hasard, hein, y en a plusieurs. Allez, vas-y Pablo. Double clic.
Vous avez le off.
Ouais. Non, mais là, non, ça va. Oui
on a Pepsi bottle and Princess Leia on Coke. But don't you get hooked up. Save the chinchilla monkeys and throw away that burger. Cause it's the little decisions that count. This is Roger Fogarty and you're listening to Creature Shock Radio FM.
Alors si vous voulez, je peux vous parler du monde de demain. Est-ce que ça vous dit?
Carrément.
Et après on écoutera le morceau d'NTM.
Ouais, tout à fait.
Carrément, génial.
Alors moi je vous conseille vraiment cette série. C'est une série française bien sûr, créée par Catel Quillévéré, Elie Cisterne et David Elkaïm, avec plein de jeunes acteurs excellents, en particulier Anthony Bajon qui joue Coulchen, et Melvin Boomer qui joue Joey Star. Mais il y a plein d'autres acteurs sympas. Et c'est l'histoire du début du rap français, de l'arrivée du hip-hop en France dans les années 80. Le synopsis, c'est tout simplement une série qui raconte la naissance du mouvement hip-hop français dans les années 80, comme je le disais, mais à travers la naissance du groupe mythique NTM et de la danseuse et graffeuse Lady V et le parcours du DJ pionnier Dynasty.
Ouais,
en fait, on les voit tous les trois en parallèle évoluer à la même époque. Donc Dynasty qui arrive de New York où il a découvert le métier de DJ. Et donc ça devient une passion. Il veut transmettre ça. Il veut faire ça en France. On voit les jeunes de la cité Allende de Saint-Denis. Donc qui zone, mais qui commence à graffer, qui commence à danser. Parce qu'il voit l'émission de Sydney à la télé, à chipper, à choper. Donc il commence à danser et puis il commence à rapper. Enfin voilà, il y a un petit peu une compétition qui se met en place entre le futur Coulchen, le futur Joey Star, c'est-à-dire entre Didier et Bruno en fait, et leurs potes. Et puis la danseuse et graffeuse Lady V qui va arriver comme ça. Elle vient du 13e arrondissement et pas dans le même quartier. Mais ils vont finir par se croiser tous dans des free parties. Enfin voilà, dans les années 80. Et c'est vachement sympa parce que on a aussi tous les personnages qui gravitent autour. Ça, c'est les personnages les plus connus, ceux qui sont devenus célèbres. Mais on a aussi, par exemple, la compagne de Dynasty qui s'appelle Béatrice, qui est une jeune parisienne qui est complètement rebelle, complètement frondeuse. C'est assez excellent. Et donc, les réalisateurs de cette saga joyeuse, je dirais, voilà, c'est vraiment une saga joyeuse et rebelle et explosive aussi, avec des personnages très attachants qui embrassent la révolution culturelle d'une jeunesse en quête de reconnaissance. C'est clairement ça. Comment sortir du quartier, comment faire découvrir une nouvelle culture, le hip-hop, au plus grand nombre. Donc on est vraiment, il y a six saisons, on est vraiment six saisons de... Six épisodes. Oui. Il y a une saison de six épisodes et chaque épisode dure 52 minutes environ. Et c'est très bien. En fait, c'est pas toute la carrière du tout de NTM, hein, c'est vraiment les débuts du groupe et l'arrivée de cette culture hip-hop à la fois au travers de la musique, du graph, de la danse, etc. Donc on est vraiment fin des années 80, début des années 90, quoi. Voilà. Jusqu'au moment où NTM sort son premier album, voilà, Authentique. Et là, la série s'arrête. Alors, en fait, il n'y a même pas besoin d'être intéressé par la carrière de NTM, en fait, parce que même si on n'a jamais écouté le groupe, c'est pas un souci, parce qu'en fait, la série, elle se suffit à elle-même. Les acteurs sont assez fabuleux, l'atmosphère est vraiment bien reconstituée. Parce que pour m'en souvenir très bien de cette époque, c'est très très bien fait, c'est frais, c'est sympa. On voudrait que ça s'arrête pas, en fait. On voudrait que ça continue,
ouais,
et qu'on ait la suite. Moi, je trouve que c'est près de la réalité, c'est vivant, et vraiment, c'est pas ridicule du tout cette série. Même, donc, c'est une petite pépite. Sur Arte, ça s'appelle Le Monde de Demain.
Trop. trop bien.
Romain lève la main.
Ouais, alors vas-y, oui, Romain. Tout à fait, j'attends mon tour, gentiment.
Mais tu as bien raison.
Alors j'ai deux questions en fait.
Oui.
La première, parce que tu l'as évoqué, tu dis on a envie de la suite. Est-ce qu'une suite est prévue?
Alors pour l'instant, je ne sais pas. Honnêtement, d'accord, j'ai regardé, j'ai okay, pas trouvé. Il n'y a pas d'annonce de.
Ok. Et est-ce que. Alors j'allais te demander si elle se suffisait à elle-même, tu y as répondu, donc ça c'est super, ça m'a donné envie. Et est-ce qu'on a le plaisir d'en entendre du NTM, justement?
Oui.
Ah, voilà, c'est ce que je voulais vérifier.
Oui, c'est-à-dire sur la fin de la saison, ben on va le. Parce qu'au départ, en fait, les mecs de NTM, ils sont plutôt graffeurs et danseurs.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et puis, il y a le groupe Assassin qui se monte dans leur quartier, hein, avec Solo et Rockin' Squad, et donc il y a une espèce de compétition, parce qu'eux ils sont partis dans le rap. Et donc c'est surtout Cool. En fait c'est vachement intéressant parce que on voit que Cool Chain c'est vraiment le moteur du truc, c'est-à-dire c'est le gars qui il aurait pu être footballeur mais il l'est pas. Parce qu'il veut faire du hip-hop.
Ouais.
Il aurait pu avoir un super boulot dans une banque mais il veut pas parce qu'il veut faire du hip-hop. Lui il sait ce qu'il veut faire en fait. Voilà. Et c'est lui qui est le moteur, qui entraîne Joey Star, parce que Joey Star en fait c'est un vrai glandeur, c'est un vrai et c'est un mec ingérable en fait.
Ouais.
Alors on voit aussi pourquoi il est ingérable, c'est parce qu'il vit seul avec son père et son père est hyper violent avec lui. Donc il est tout le temps en dehors de l'appartement. Quoi. Il veut pas rentrer chez lui. Quand il rentre chez lui, c'est chaud quand même.
D'accord.
Donc il est tout le temps dans la rue, il traîne, il fait des conneries, il vole des scooters. Enfin voilà, on voit plein de et on voit comment les deux se rencontrent et comment ça va finir par matcher entre eux en fait. C'est-à-dire qu'au départ ils s'apprécient pas forcément en fait, et puis petit à petit la mayonnaise va prendre en fait, ils vont comprendre que ensemble quand ils sont tout seuls ça fonctionne pas, quand ils sont à deux ça c'est génial quoi. Et ça on le voit quand ils chantent par exemple, tu parlais des premières chansons de NTM, quand on les voit répéter, quand on les voit s'entraîner, écrire des paroles, etc. Quand ils sont tous les deux, c'est génial. En
fait. Ouais, exactement. C'est vrai que ça match totalement. Hein. Mmh. C'est vrai que moi je me rappelle de NTM. Hein. J'ai pas encore vu la série, mais j'ai vraiment hâte de la voir d'après ce que tu dis. Et il y a ce côté quand même. C'est des pionniers quoi. C'est quand même avec le groupe IAM, c'était quand même les pionniers du rap français. Qu'on vraiment posé des bases incroyables.
Voilà, et donc pour répondre toujours à ta question Romain, oui, on voit la création du premier album, donc on les entend bien sûr rapper, on les entend chanter authentique, c'est clair, Le Monde de Demain qu'on va écouter tout de suite. Ah,
allez, ouais, Le Monde de Demain.
Quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains.
Bah, je vois que t'as bien
alors entendu. Écoute ce refrain, mais moi je la connais pas.
Ouais,
dans Geek Mafia sur Radio Show. 101.5.
Qui fait le point, bien sûr.
Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Ceci la liberté, égalité, fraternité, j'en ai bien peur.
Le monde de demain, quand il a pris nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Nous appartient, sa puissance est dans nos mains. Alors...
plus jamais toléré. Oh oui, c'est triste à dire, mais tu n'as pas compris.
Pourquoi les jeunes de mon quartier vivent dans cet état d'esprit?
La délinquance avance,
et tout ceci a un sens.
Car la violence coule dans les veines
de celui qui a la haine.
Ok, je reprends les rênes pour faire évoluer ton esprit.
Prie.
Prisonnier d'un système où les règles ne sont pas les mêmes. Suivant ta classe,
yeah.
Suivant ton style,
oui.
Suivant ta face, suivant ta race. Le rouage est bien huilé, le système bien ancré. Ok, mais n'oublie jamais que je suis armé de paroles pour m'imposer,
m'imposer,
m'interposer, processus enclenché. Je balance ma vérité. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain.
Et voilà, c'était Le Monde de Demain, Suprême NTM, dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Et bah c'est chouette, parce que ça a bien donné envie de voir la série.
Alors tout de suite, on va continuer sur les séries et on va parler
des Papillons Noirs.
Des Papillons Noirs, donc une série actuellement sur Netflix et qui est passée aussi sur Arte.
Ouais, moi je l'ai vu sur Arte.
Tu l'as vu sur Arte, effectivement.
Et c'est vrai que c'est sympa parce que maintenant il y a Netflix qui fait des coproductions en fait. Donc on peut voir la série sur Arte par exemple et ensuite sur Netflix. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'élargir le public. Voilà.
Ouais, j'ai trouvé ça aussi génial et c'est bien que tu le précises. Donc c'est une série, c'est un thriller court et d'une profonde intensité qui nous plonge au cœur des ténèbres et nous enfonce peu à peu. Une série noire et brillante. C'est une série créée par Bruno Merle et Olivier Abou. Donc comme tu l'as dit, d'abord diffusé sur Arte, puis actuellement sur Netflix. Je vous raconte le synopsis. Maudit, écrivain en panne d'inspiration, accepte d'écrire les mémoires d'Albert, un vieil homme qui lui raconte sa jeunesse. Orphelin de guerre, il avait noué une amitié qui se transforme en amour avec Solange, fille de Bosch, dont la mère se prostituait sous l'occupation nazie. Plus tard, adolescente, Solange tue un homme qui tente de la violer sur la plage. Et Albert la protège. S'ensuit une vie d'amour et de meurtre à la Bonnie and Clyde. Alors, cette série est brillante car très bien construite. Comme son personnage principal, Adrien alias Maudit, nous nous trouvons coincés, comme pris au piège, dans cette relation avec un tueur en série qui nous fait ses confidences. Ce qu'il raconte est souvent abject, mais nous sommes fascinés par son récit et nous voulons en savoir plus, l'accompagner dans ses ténèbres. D'ailleurs, les choses s'accélèrent, pas le temps de s'endormir dans le noir. Bientôt, des rebondissements vont relancer l'intrigue jusqu'à la révélation finale. Le scénario est parfaitement maîtrisé. Esthétiquement, la noirceur du propos et des personnages contraste avec les couleurs pop des années 70. Le casting, est excellent et les acteurs dirigés à la perfection. Ils sont crédibles, bluffants, pervers dans leur manipulation. Je cite, dans Par-delà bien et mal, le philosophe Nietzsche disait, si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, alors l'abîme aussi regarde en toi. La noirceur, mais absolument, on est vraiment dans la noirceur. La noirceur que révèlent les confidences d'un tueur en série font écho au traumatisme de l'enfance chez Adrien, le personnage principal, comme dans un effet miroir. En fait, tous les personnages vont révéler peu à peu leur violence intérieure, la rage et la fureur qui les animent. Et comme dans un métalangage, la série met en scène une réflexion sur la violence faite aux femmes, notamment à partir des viols trop longtemps banalisés, mais aussi pour comprendre comment la violence se transmet d'une génération à l'autre. Et pas seulement par le récit familial ou par la mémoire, mais par cette mémoire cellulaire, l'épigénétique. En clair, notre histoire et celle de nos ancêtres s'inscrivent dans nos gènes et peuvent éventuellement se transmettre à autrui. Donc, la série créée par Bruno Merle et Olivier Abou questionne ainsi l'origine de la férocité de ces personnages, raconte comment des héros peuvent se transformer en monstres. Qu'ils soient des pseudo-sauveurs masculins ou des femmes meurtries en quête de vengeance. Des problématiques qui font des Papillons Noirs, une série thématique thématiquement passionnante et une belle et d'une belle ambiguïté morale. Voilà, voilà. Donc un grand conseil.
Merci Pablo. Alors moi je l'ai vu aussi à cette série Les Papillons Noirs sur Arte. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un thriller carrément addictif.
D'accord.
Carrément addictif. Et surtout avec deux grands acteurs, Nicolas Duvauchel et Nils Arild Strup, qui est magistral.
Tout magistral.
Et donc, juste pour dire, le saviez-vous? Petite question. Le saviez-vous? Eh bien, le roman qui est écrit par le personnage joué par Nicolas Duvauchel dans la série, là,
ouais.
Eh ben, il est réellement sorti en librairie.
Ah ouais. Alors ça c'est énorme par contre.
Ça c'est énorme.
Ah ouais, alors ça je
savais pas.
C'est méta.
Excellent. On est vraiment dans le méta, tu vois, le méta quoi.
C'est une mise en abîme. Ouais,
super mise en abîme.
C'est génial. Je vous le conseille.
Ouais, toi aussi t'as adoré alors.
Ah oui, c'était génial. On a regardé avec Florence, on a adoré parce que il y a cette ambiance des années 70, il y a ces meurtres et puis surtout il y a un twist énorme. Énorme twist.
Il y en a même deux ou trois,
plein de manipulations.
C'est un truc de dingue.
En fait, c'est un thriller addictif parce que on est manipulé tout le temps en fait. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas spoiler. Spoiler alert.
C'est ça.
Ne divulgâchage.
C'est ça, absolument.
Donc les gars,
Romain,
petit générique.
Ouais. Ah bah, si tu veux.
Ouais. Creature Shock Radio FM. Eh bien moi, j'ai envie de vous parler de série.
Allez,
aussi.
Romain.
Pardon, oui,
donc, bah,
je t'en prie. J'ai envie de vous parler aussi de série aujourd'hui. Alors, je n'ai pas tout vu parce que c'est une première saison et c'est un peu de saison justement parce que là, pour le coup, on est en plein dans Halloween, c'est les vacances pour certains, on en profite un peu. Et il y a quelque chose en ce moment sur Netflix pour les amateurs du genre, puisqu'il y a le Cabinet des Curiosités. Alors, est-ce que vous avez entendu parler
de
cette...
De Guillermo del Toro.
Absolument.
Oui, absolument.
Absolument. Alors, c'est présenté un peu à la... Vous voyez, comme c'était un petit peu le cas pour la quatrième dimension.
The Twilight Zone.
Oui, ou Hitchcock présente, me semble-t-il.
Génial.
C'est ça. Et voilà, vous avez Guillermo del Toro, en fait, qui au départ vous annonce... c'est toujours lui qu'on voit en premier, c'est une esthétique qui est faite comme ça. Il nous annonce de quoi va parler l'épisode. Et puis, à chaque fois, ce sont des moyens-métrages. Alors, ça dure entre 45 minutes, une heure dix. C'est pas très long. Mais justement, c'est sympa par rapport au format et c'est des réalisateurs différents à chaque fois. Et bon, voilà, vous avez bien compris hein, que il s'agissait d'horreur. Hein, c'est pour ça que je parlais d'Halloween et de ce genre de fête en ce moment. Et alors bon, pour les amateurs du genre, oui, vous allez retrouver des codes j'ai envie de dire de l'horreur à papa en quelque sorte.
L'horreur classique.
Ouais, parce que c'est ce que je trouvais intéressant parce que si vous voulez, on est habitué, on a tous connu les films d'horreur en première génération avec l'hémoglobine, les litres de sauce tomate.
Evil Dead.
Voilà, ce genre de choses. Puis après, il y a eu tout le délire des films un peu jumpscare avec les
Scream.
Oui, et puis après, tu sais, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est un peu fantôme, tout ce qui est un peu conjuring, tout ça, genre de trucs, il y a eu beaucoup. Et là, oui, j'ai envie de dire, c'est gore, c'est costaud quand même. Mais, alors, il y a 8 épisodes, pour tout vous dire, hein, c'est une saison. Alors, je ne sais pas s'il y aura une saison 2, je vous le dis d'ores et déjà. Mais c'est 8 épisodes où, il y a différents styles. Il y a du gore, il y a du fantastique, il y a de l'humour noir, un peu à la série Z. Vous voyez, des fois, il y a quand même de l'humour malgré l'horreur, il y a beaucoup d'hémoglobine, hein, et puis il y a pas mal d'acteurs qui sont très bons. Alors je vous en dis juste un truc, parce que j'aimerais bien, j'ai envie de vous entendre, j'ai envie de questions sur tout ça, mais en l'occurrence, ouais, il y a pas mal de guests, que ce soit des acteurs de séries qu'on connaît, comme par exemple pas mal d'acteurs de Big Bang Theory, par exemple, on a, vous savez, l'actrice dont j'ai oublié le nom, je vous le redirai, mais qui est la petite amie de Raj, qui supporte pas de parler à beaucoup de gens en même temps, je sais pas si ça vous dit quelque chose, par exemple. On a des acteurs un peu plus illustres comme Murray Abraham ou d'autres encore, et vraiment les acteurs sont bons. Alors après, clairement, les épisodes sont de valeur assez inégale, hein, j'ai envie de vous dire.
Tu réponds à ma question.
Ah d'accord. Eh ben je suis désolé.
Mais non, au contraire. Pourquoi t'es désolé?
Non, mais c'est parce que j'aime bien l'interaction. Mais en l'occurrence, effectivement, ils sont de valeur inégale. Et on a des choses qui sont, en tout cas il y a quand même un fil, comme enfin il y a quand même une esthétique, il y a quand même une patte, c'est quand même chaperonné par n'importe qui justement, et ça reste toujours assez esthétiquement intéressant. Après, le fond est plus ou moins voilà, plus ou moins intéressant. Et par contre, il y a un truc que j'ai trouvé, bah après vous y verrez ce que vous voudrez, mais moi j'y vois des clins d'œil de la part de ceux qui ont réalisé à chaque fois un épisode au réalisateur. Par exemple, dans le premier épisode qui s'appelle, alors je sais plus, ça doit être Box 36 ou quelque chose comme ça, le monstre, sans trop en dévoiler, à un moment qui court après le protagoniste, il me fait clairement penser, pour ceux qui ont vu le labyrinthe de Pan, au monstre qui est réveillé, vous savez, qui a des yeux sur les mains. Tu vois, je vois que Seb
a la ref. Pareil, tu réponds à ma question.
Ah, bah, je suis désolé, mais je vous connais.
Pas désolé, il est trop bien.
Il est trop fort. Il est hyper complet.
Non, il y a ça, et pas que, parce que vous savez aussi, alors il a fait un autre film il y a pas longtemps, je sais, ça s'appelle pas, c'est avec l'eau, enfin je sais pas.
La forme de l'eau.
La forme de l'eau. Ouais. Et bien justement, dans l'épisode que j'ai vu aujourd'hui, avec justement cette actrice qui joue dans Big Bang Theory, il y a une sorte de forme qui se fait. Alors c'est tout un, parce qu'en plus, des fois il y a du fond qui est relativement intéressant. L'épisode par exemple du jour que j'ai vu donc aujourd'hui, c'est un petit peu sur les années 70, et c'est un peu sur les dictats de l'esthétique qu'on impose aux femmes, et justement ce culte de la beauté, en tout cas de la beauté présupposée, et ça tourne autour d'une crème un peu maléfique qui vient faire complètement vriller le personnage qui se trouve moche. Ouais, et c'est hyper intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement ce personnage, elle est taxidermiste, c'est ça, enfin elle sais pas si le terme est bon, elle empaille et comme finalement ces femmes qui voudraient figer un instant de jeunesse, un instant de beauté de manière éternelle.
Alors,
quoi.
Sébastien,
alors je t'écoute, tu as une question visiblement.
Non, alors moi ce que tu racontes, ouais, ça me fait penser au conte de la crypte.
Mais c'est exactement ça, mais tout à fait, pour ceux qu'on
adorait ça.
Ouais, on a connu les contes de la crypte à l'époque, qui était sur M6 si je dis pas de bêtises, voire pour les plus jeunes.
Ça, tu le fais bien.
Ah oui, tu le fais très bien. Et il y avait aussi, vous savez, Chair de poule, c'était un peu le système comme ça, où il y avait une histoire. Chair de poule, c'était un peu plus,
ouais,
le public était un peu plus jeune, mais ça restait des histoires d'horreur qui étaient un peu public un peu plus jeune, et ça fait un peu penser aux deux. Alors par contre, faut pas se mentir, hein, c'est beaucoup plus gore que ce qu'on a vu sur Chair de poule et autres, mais c'est pas mal, esthétiquement c'est pas mal. Parfois les fins sont un peu bâclées, j'en dirais pas plus. Je trouve que voilà, la fin justifie pas, enfin tout le contexte est hyper bien amené, et des fois la fin gâche un peu l'épisode. Vous verrez, si vous regardez et que vous pensez la même chose que moi, à quel épisode je fais allusion. Mais globalement, on passe un bon moment comme ça, en petit plaid, on grignote, on a envie de se faire des petits trucs d'horreur pour se rappeler un peu les trucs de notre jeunesse. On passe un moment, je vous le recommande tout simplement.
Merci Romain.
Bien, merci Romain.
Mais c'est vrai que Guillermo del Toro, on a cité le labyrinthe de Pan, la forme de l'eau.
Oui.
Mais c'est aussi Hellboy, c'est aussi Crimson Peak, film sur les maisons hantées, hein, clairement. Et le Pacific Rim, l'Échine du diable, donc quelques films d'horreur.
Absolument, à son actif.
Mais dans plein de genres différents.
Tout à fait. Bah, c'est un peu le cas d'ailleurs. Et je pense que les réalisateurs lui font des clins d'œil pour les personnages des films qu'il a réalisés. J'en suis intimement persuadé. J'y vois peut-être, j'en vois peut-être trop, mais j'ai l'impression en tout cas.
Ouais, mais c'est super. En tout cas, ça donne vraiment envie. Et puis voilà, t'es pile poil dans le thème Halloween là. C'est nickel chrome. On était bien dans le dark et le sombre hein, ce soir, on dirait.
Ouais, oui, mais on va écouter une belle chanson que tu nous proposes.
Alors,
Romain,
qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, rien à voir. Ouais. Alors, pour le coup, c'est simple. Alors, des fois, il y a vraiment pas de justification. C'est juste un titre qui m'entête en ce moment. Je l'écoute quotidiennement.
On a envie de le découvrir.
Ouais, mais alors c'est pop. Ça mange pas de pain. C'est léger, mais c'est agréable à écouter.
On écoute alors.
Allez, c'est parti, les gars. Vous êtes bien dans Bande Geek Mafia
sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point, bien entendu.
Alors, ça s'appelle.
Alors, le titre s'appelle Low Blow et le groupe c'est Honeymoon. À mon avis, il y a.
Imagine
Ça vous a plu, c'était vraiment
c'était cool,
doux, hein. C'était vraiment.
Eh ben moi j'ai beaucoup chill, aimé Romain.
Ah ça me fait plaisir.
Ouais, c'était bien. On a écouté pas mal de musique, des musiques variées. On a écouté du rock avec Iggy Pop, on a écouté du rap avec NTM, on a écouté
la pop. La pop, dire, tout à fait.
La pop, rock.
Ce qu'on aime dans Monde Geek Mafia, c'est quoi les gars?
C'est l'éclectisme.
C'est l'éclectisme.
Mais ouais les gars.
C'est ça.
Absolument.
On embrasse Seb du coup, hein. Ça, on aura un clin d'œil pour lui.
C'est lui le roi de l'éclectisme.
Alors c'était la première émission animée par Pablo. Merci Pablo.
Ouais. Et moi je te félicite, je t'applaudis. J'espère que ça s'entend.
Merci. Alors, les gars,
dans
merci,
15 jours c'est Romain.
Dans 15 ans c'est Romain.
Il faudra essayer.
Ouais c'est ça.
Avec Hakun ou Seb.
Ou Seb ou Seb.
Ou tous les deux ensemble.
Voilà. Pourquoi pas un duo.
En duo.
Ça pourrait être bien.
Juste après nous.
D'ailleurs je le dis, hein, on a été souvent en duo avec Seb. Hein,
non.
Le duo aux auditrices et aux auditeurs.
Ah non. C'est Momo à la technique.
Franchement il a été une béquille de temps en temps, un tout petit peu.
Non mais vous n'êtes pas obligé de tout raconter.
Très bien débrouillé, non, franchement, ça m'impressionne.
Quelques
ça
m'impressionne. Des cartes.
Bon, en tout cas, j'espère que cette beaucoup. Émission vous a plu.
Ah ouais.
Merci à toutes et tous.
Dans 15 jours.
Ah, dans 15 jours.
Donc, au revoir. Bande Geek Mafia.
Topette, bisous.
Les semaines paires.
Les semaines paires,
sur
gars.
Radio G.
101.5.
De 19h à 20h.
Et oui.
Et on se quitte avec un super jingle.
Allez.
Salut.
Ciao, ciao les gars. Yeah. Now?
Creature Shock Radio FM. That's right. Now, say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Radio G 101.5 FM.